il y aura toujours un nouveau mail à traiter, il y aura toujours une modification que tu peux faire sur ton site, il y aura toujours une publication que tu peux imaginer sur les réseaux sociaux, il y aura toujours une nouvelle service, activité à lancer, il y aura toujours quelque chose. Et donc, si tu mets pas des garde-fous, tu mets pas des barrières, si tu ne mets pas en conscience dans ton calendrier des activités qui ne sont pas le travail, bah le travail bouffera tout.
Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Cet épisode est sponsorisé par Patreon, qui est le partenaire officiel de cette saison 4. Et je suis très heureux de travailler avec eux car ils se battent pour la même cause que moi, permettre aux créateurs de travailler sur ce qu'ils aiment et d'être payés en retour par tous les gens qui aiment leur travail. Le fonctionnement est très simple. Si vous créez, Patreon vous permet de recevoir directement de la part de votre communauté une contribution financière chaque mois pour soutenir vos créations. Et ça fonctionne quel que soit votre domaine de création. La créativité nécessite de sortir des sentiers battus, et Patreon l'a bien compris. Grâce à ce lien entre vous et vos fans, vous recevez le support dont vous avez besoin pour oser de nouvelles idées et aller encore plus loin dans vos projets. Et tout ça, sur une interface simple et facile d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus, vos créations. Je suis très fier qu'on puisse vous aider ensemble à progresser sur cette saison 4 et je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire sur le site de Patreon, www.patreon.com. Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis très heureux de lancer cette saison 4 avec une personne que j'estime énormément, Alexandre Dana. Alex a été une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. J'ai énormément grandi à ses côtés chez Live Mentor, l'entreprise qu'il a créée pour former des milliers d'entrepreneurs en France depuis 2012. Mais bien au-delà de ça, c'est lui qui m'a encouragé à sortir des sentiers battus, à oser, à faire des choses qui méritent d'être marquées. Et je pense qu'Inspiration Créative existe aussi grâce à lui. Et donc aujourd'hui, j'avais très envie de le rencontrer pour lui parler d'un sujet spécial. Pourquoi aujourd'hui et pas avant? Parce qu'il sort en ce moment un livre sur la santé mentale des créateurs et que j'avais envie d'aller discuter avec lui de ce sujet et pas d'entrepreneuriat. J'ai eu moi-même des crises d'angoisse en 2021 et la santé mentale dans la création, c'est encore quelque chose qui est trop tabou. Alors qu'on est tous touchés par des périodes de down, peu importe ce qu'on crée. On a parlé ensemble dans cet épisode de plusieurs sujets passionnants, comme par exemple ses différentes descentes aux enfers et comment il en est remonté, les changements intérieurs que l'on vit et les réponses qu'on peut y apporter, mais aussi comment construire ses avatars pour grandir et travailler son identité. Le livre d'Alex s'appelle « Entreprendre mais surtout être heureux » et il est disponible en ce moment sur Ulule, je vous mets le lien dans la description et je vous encourage tous à aller l'acheter parce que c'est une pépite. Cet épisode est d'utilité publique et je suis très heureux de commencer cette nouvelle saison avec lui. Bonne écoute! Je réfléchissais à comment démarrer ce podcast avec toi tout à l'heure, dans le train en venant depuis 3. Et en fait, je me rends compte que ce podcast existe aussi grâce à toi et à ce que j'ai vécu sur ces 3 années avec Live Mentor. Donc, je voulais prendre le temps de savourer ça aussi parce que je trouve que tu vois, c'est un moment où on a eu... moi, j'ai passé 3 ans à bosser avec toi chez Live Mentor. On va en parler de ces 3 années, mais aussi de ce que toi, tu vis chez Live Mentor depuis quoi, 8 ans, 9 ans maintenant ?
10 ans.
10 ans. Il y a vraiment, tu vois, j'ai eu vraiment pendant ces 3 années-là, moi, beaucoup de, je trouve, on va parler peut-être de l'entourage pendant cet épisode, mais vraiment de temps où, quand on est bien entouré comme ça, avec des gens comme toi, avec Valentin, avec d'autres membres de l'équipe comme Anaïs, bah, ça m'a beaucoup éveillé et c'est sûrement des choses comme ça qui ont participé, en étant dans cet écosystème, à créer le podcast aussi après, donc c'est très chouette.
Mais en sens inverse, on n'existerait pas sans toi.
C'est trop bien. J'avais envie de discuter avec toi beaucoup. Et je pense que c'est une thématique qui est assez importante pour toi en ce moment, du bien-être de l'entrepreneur, du bien-être du créateur. C'est quelque chose sur lequel tu viens d'écrire un livre. C'est ton deuxième livre ?
Oui,
tout à fait. Comment ça s'est passé pour toi l'écriture de ce livre ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que ça a été ardu ? Est-ce que c'est plus facile que la première fois ?
Alors, la première chose, c'est que, comme tu le sais, moi j'adore écrire. J'ai découvert que j'aimais écrire au bout de 5 ans à la tête de Live Mentor. C'était un hasard. J'ai commencé à écrire ma première newsletter 5 ans après le démarrage de l'entreprise.
Yes, au moment un peu après le pivot en 2016.
Exactement.
Ouais.
Et j'ai pris du plaisir à écrire cette première newsletter et ensuite bah, j'ai répliqué ce plaisir et je me suis rendu compte a posteriori que je pouvais y prendre du plaisir, mais que ça pouvait surtout avoir un intérêt pour l'entreprise. Donc, c'était pas juste des mots en l'air, c'était pas juste un petit kiff perso, c'était réussir à concilier quelque chose qui a du sens pour la boîte, qui a du sens pour la communauté, qui a du sens pour les équipes et un plaisir personnel. Et deux, ce travail d'écriture sur les newsletters. J'en ai quand même écrit 180.
Oui, on les connaît. Hein. C'était des sacrées aventures, ces newsletters. Parfois, démarrer tardivement dans la nuit.
Parfois démarrer tardivement dans la
J'en
nuit.
J'en connais un rayon.
Et célèbre, entre autres, pour leur longueur. Donc, c'est quand même des newsletters de 4-5 pages. Donc, quand tu fais 180 fois 4-5 pages, ça fait déjà un ou deux livres avec ces newsletters.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que sur ça, ça contrebalance vachement avec tu vois, des modes de contenu aujourd'hui, des modes de création où on encourage à des choses parfois très éphémères, très courtes. Tu vois, l'émergence de TikTok, de plus en plus de formats, les reels sur Instagram où on va vraiment à l'essentiel. Et en fait, je trouve que l'exemple de Live Mentor, que ce soit par les newsletters, le livre ou autre, c'est des choses où en fait, tu prouves aussi qu'on s'en fout, quoi. Du moment qu'on fait des choses de qualité et qu'on raconte des histoires et qu'on va au bout des choses, ça peut être extrêmement long et extrêmement passionnant.
Ouais, j'ai réécrit récemment un de nos articles de blog qui faisait déjà 1800 mots. Maintenant, il en fait 5200. Donc, c'est clair que nous, on aime raconter des histoires longues parce qu'on est aussi formateur, pédagogue et que expliquer quelque chose, si on veut bien le faire, ça prend du temps. Et moi, je pense, été beaucoup marqué par des inspirations de nature très différentes, des biographies. J'ai le goût des biographies, j'adore lire des biographies. Les belles biographies, c'est des biographies qui sont longues, où tu rentres dans le détail de l'histoire de la personne. J'ai été marqué. Ici, c'est un lieu de lecture. Mais j'ai été marqué par le professeur qui m'a donné l'amour de l'économie, qui écrivait des cours d'une longueur absolument hallucinante, mais avec une qualité de rédaction incroyable. Et donc, après avoir découvert le plaisir de l'écriture via les newsletters, j'ai décidé de passer à une autre, pas à la vitesse supérieure, juste à une autre forme d'écriture qui est le livre, avec le premier bouquin, donc La méthode Live Mentor, que j'ai commencé à écrire en 2019, publié en 2020, juste avant le premier confinement. Et j'ai adoré cette expérience. Et j'ai décidé, il y a 6 mois maintenant, de me mettre à l'écriture du deuxième livre, Entreprendre et surtout être heureux. Et pour cette fois, aborder non pas le sujet des compétences techniques comme se faire connaître, vendre, gérer ses finances, mais le sujet de la santé mentale et des entrepreneurs et de leur bien-être.
Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que le premier livre, c'était un peu la question de, ok, il y a un livre qu'il faut écrire sur l'entrepreneuriat, on réfléchit, on prend cet angle-là, et il était presque attendu. Là, j'ai l'impression que tu vas beaucoup dans quelque chose d'encore plus personnel, de ce que tu as pu, toi, vivre, d'assez violent, parfois aussi, qui t'ont chamboulé par le passé dans ton parcours d'entrepreneur chez Live Mentor, et que tu décides presque de faire un exercice totalement vulnérable de je suis passé par là, mais on n'est pas tous obligés de passer par là pour aller vers plus de bien-être dans nos créations, dans ce qu'on fait et dans notre parcours de vie, quoi.
C'est exactement ça. Le premier livre, c'était une conséquence logique par rapport à ce qu'avait fait Live Mentor, créer un catalogue de 15 formations, accompagner plus de 10 000 créateurs et créatrices d'entreprises à l'époque où j'ai écrit le livre. Aujourd'hui, c'est un nombre plus important, mais déjà 10 000 personnes accompagnées, ça donnait suffisamment de billes et de recul pour pouvoir synthétiser les apprentissages dans un bouquin et affirmer au monde, c'est pas si compliqué que ça de définir ses prix, c'est pas si compliqué que ça de se faire connaître, c'est pas si compliqué que ça de définir une vision d'entreprise. Tout le monde peut apprendre à le faire. Et par contre, ce deuxième livre était beaucoup plus risqué parce que le sujet de la santé mentale, on ne l'aborde pas historiquement dans notre catalogue de formation. On n'a pas une formation intitulée « Comment prendre soin de sa santé mentale quand on est créateur ?» On n'a pas une formation intitulée « Comment protéger son bien-être ?» Mais au final, il s'inscrit complètement dans ce qu'on fait parce que dans les conversations qu'on a chaque mois avec les 1500 personnes qui se forment sur Live Mentor, ça revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme on a pensé un modèle de formation qui repose sur l'accompagnement individuel, on laisse la porte ouverte à ce genre de discussion transparente, vulnérable, où quelqu'un qui suit une formation vient voir son mentor et ne lui dit pas simplement « j'ai du mal à réaliser des ventes en ce moment », il lui dit « je me sens imposteur, Je crois que je ne suis pas au niveau. Je me compare avec mes concurrents.
À l'intérieur, ça ne va pas.
Et, exactement. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu montrer à l'extérieur ce qui se passe dans nos accompagnements.
Ouais. C'est assez marrant de se retrouver dans cette position parce que tu es un des invités sur le podcast que je connais le mieux. Je pense que tu es l'invité que je connais le mieux. Et j'ai aussi envie d'en profiter pour faire un vrai épisode, tu vois, où on s'amuse, on passe un bon moment, on rigole, on fait n'importe quoi, j'en sais rien, tu vois. Mais je sens en tout cas que je suis à l'aise pour aller parler vraiment de choses assez profondes avec toi et même de choses que peut-être tu n'as pas abordées ailleurs par le passé. C'est quoi les moments où toi, tu as été le plus au fond du trou dans ton aventure de créateur depuis 10 ans chez Live Mentor?
Alors, il y a eu deux vraies descentes aux enfers. Donc je sais pas si ça va être marrant parce que tu as dit que tu viens de poser comme intention.
Cet épisode, je sais qu'il peut
s'amuser.
Cet épisode, il peut là, il ouvre la porte à toutes sortes de possibilités, je trouve. Tu vois, moi, ça me fait marrer de faire des épisodes comme ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Et certes, c'est pas marrant, mais c'est super. C'est un témoignage aussi important parce que je sais que derrière, il y a aussi des choses que toi, t'en as apprises qui vont nous servir à tous. Et tu vois, j'ai envie non seulement de savoir comment c'était au fond du trou, mais aussi si aujourd'hui tu devais mettre des garde-fous justement pour éviter de tomber dans ce gros trou, qu'est-ce que ce serait, tu vois? Parce que ça. Moi, je le vois, inspiration créative, ça grandit. Il y a des jours où j'en bave aussi et où tu vois, je faisais des crises d'angoisse l'année dernière, c'était assez violent.
Je me souviens. Ouais.
Je t'en avais parlé, tu m'avais parlé beaucoup du stress de l'entrepreneur et du créateur. Tu vois, tous ces garde-fous-là, plus on peut les mettre dans nos aventures, mieux on se porte. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller creuser avec toi.
Moi, la première descente aux enfers, c'était février 2016, donc 4 ans après la création juridique de Live Mentor. Et donc, à l'époque. Je ne crois plus dans le projet, je ne crois plus dans la vision, je ne crois plus dans la mission, j'ose le dire à personne, et j'ai des doutes que j'ose à peine me formuler à moi-même. C'est-à-dire que quand je dis que j'ose à peine les formuler à moi-même, je ne les écris pas par exemple sur un papier, je ne tiens pas de journal de réflexion à l'époque. Donc, mais je commence quand même à avoir une tempête assez forte.
Il y a un bout d'introspection qui pointe le bout de son nez en mode il y a peut-être des trucs qui ne sont pas très alignés. Quoi.
Voilà, mais sans faire de vrai travail et donc plus dans une perte d'énergie intellectuelle très forte. Et donc je me retrouve à Londres à cette époque-là pour essayer de lever des fonds parce qu'on m'a demandé de venir. Des investisseurs anglais ont vu la boîte et la trouvent sympa. Et tu te retrouves dans cette contradiction à toi ne plus croire dans le projet, ne plus croire dans la mission et devoir toute la journée parler en anglais à des personnes pour les convaincre de mettre 1 million d'euros. Et,
dur.
Et ça crée en fait un bug dans la matrice qui à un moment explose. C'est-à-dire que ton corps et ton mental ne peuvent plus supporter ça. Et donc moi, j'ai éclaté en larmes au milieu de la semaine dans le métro à Londres. Je me suis effondré totalement. Et là, ça a été le début d'une période difficile. Et pour donner un peu le contexte, une période difficile, c'est tu te réveilles à 8 heures parce que ton réveil sonne. À l'époque, j'habite dans le nord de Paris, dans un tout petit appartement. Tu éteins le réveil. Il ressonne à 9 heures parce que la veille, tu sais très bien que tu vas jamais réussir à te réveiller vu ton état d'énergie des derniers mois. Donc, tu as mis un deuxième réveil à 9 heures. Tu l'éteins aussi quand il sonne. Et tu en as un troisième réveil à 10 heures que tu as aussi mis en prévision. Tu te réveilles péniblement. Je suis dans mon lit. Généralement, je ne sortais même pas de mon lit. Je prenais mon ordinateur qui était sur l'oreiller à côté. J'étais célibataire, donc de toute façon, il n'y avait personne qui dormait à côté.
Trop pour Live Mentor à l'époque.
Je travaillais trop et surtout, je travaillais très mal. Et donc, je prenais mon ordinateur, je me mettais à travailler dans mon lit. Mais tu sais, pour parler très concrètement, tu ne prends pas de douche, quoi. Tu n'as plus aucune estime de toi.
Au fond du trou, quoi.
Voilà. Et ça dure plusieurs mois. Donc, tu prends pas ta douche, tu commences à travailler. À un moment, tu es quand même mort de faim, donc tu vas à la boulangerie la plus proche te prendre un truc, que tu manges devant l'ordinateur avec du boulot, des mails. Et puis ça dure jusqu'à la fin de la soirée. Tu fais peut-être une pause pour regarder une série, mais il n'y a pas de sport. Il y a très peu de relations sociales. Tu ne te rappelles plus le dernier jour de vacances que tu as pris. En fait, je sais, j'ai pas pris de jours de vacances durant les 6 premières années de Live Mentor. Donc ça, voilà, ça c'est la situation.
Ce qui se passe dans une situation comme ça, moi je l'ai vécu de près, pas personnellement, mais ma maman a eu un gros burn-out il y a quelques années, donc moi j'avais 10 ans à l'époque, donc c'était, tu vois, je le voyais d'à côté. Et ce que je remarque, c'est que t'as pas. C'est très dur de trouver une porte de sortie en fait. Tu vois, là, la situation que tu me racontes, c'est je suis au plus mal, au fond du trou, et pourtant, les pratiques que j'ai, elles changent pas tant que ça, tu vois. Je continue à bosser comme un acharné, l'hygiène de vie est pas au top parce que je me sens pas bien, et je continue de la même manière, quoi. Comment t'as fait pour sortir de ça?
Mais je ne suis pas... C'est ça mon problème en 2016, c'est que je touche le fond, mais je ne fais quasiment aucun changement sur mon bien-être et sur mes routines et sur mon rapport à moi-même.
T'es au fond de la piscine et tu racles ouais. Le sol.
Ouais. Côté, quoi. Ouais. Et c'est très juste que tu dis ce mur mental... où tu te répètes qu'il y a du travail et qu'il faut y aller et que ça doit se passer comme ça. Et tu vis dans l'illusion qu'à un moment, tous tes soucis professionnels vont se régler du jour au lendemain.
Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un... Tu sais, parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Tu vois, on ne voit pas de choix possible autre que cette ligne qui est celle que tu évoques là, le mur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu aurais aimé avoir quelqu'un dans l'oreille ou un éveil ou un truc sur lequel tu ouvres les yeux et tu te dis ok, en fait au lieu d'aller là je pourrais aller à gauche et mieux m'en sortir, tu vois?
Ah oui, mais à l'époque je travaillais pas avec des coachs ni avec des thérapeutes. Ce sont deux ressources extrêmement utiles. Ça faisait 5 ans, 6 ans que je travaillais sur Live Mentor, mais à aucun moment je n'avais eu une vraie aide extérieure structurée et je n'avais pas quelqu'un qui pour me donner un regard sur l'entreprise, sur la stratégie, sur la répartition de mon temps, mais je n'avais pas non plus quelqu'un, thérapeute, sophrologue, ostéopathe, énergéticien, hypnose, tout ce que je viens de mentionner, moi je le pratique régulièrement aujourd'hui, quelqu'un qui aurait pu me dire « Là, votre corps dit que ça ne va pas, monsieur Dana. » Ça, je ne l'avais pas. Donc c'est pour ça que je crois énormément dans les bienfaits de l'accompagnement et de ce que j'appelle l'écosystème personnel de l'entrepreneur.
Raconte-moi ça. Qu'est-ce que tu entends par écosystème personnel ?
L'écosystème personnel, c'est le réseau de personnes qui m'entourent, qui fait du bien à la fois à mon entreprise, mais aussi à l'individu que je suis et aux différentes identités qui me composent. Donc ça peut être tes associés, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des amis avec qui il y a une vraie relation profonde. Donc voilà, moi je suis sorti de ce burn-out difficilement. Février 2016, mars 2016, avril 2016, mai 2016, ça va toujours pas mieux. Juin 2016, je trouve une nouvelle stratégie pour Live Mentor. L'entreprise commence à fonctionner. Et donc là, je fais un raccourci mental très dangereux qui est de me dire... Mon bien-être, en fait, est dépendant de la santé de l'entreprise. Si l'entreprise va bien, je vais bien. C'est plus complexe que ça.
En termes d'identité, c'est...
Et en termes d'identité, c'est catastrophique.
C'est compliqué parce que voilà. Ça veut dire que toute ton identité repose sur ton entreprise.
Exactement. Et ça, je le découvrirai que lors de mon second burn-out. Ça, c'est la deuxième partie de Star Wars.
Deuxième vortex.
Vortex. Ça sera en septembre 2018 où, effectivement... Je replonge et à ce moment-là, je réalise que mon parcours depuis le premier burn-out n'a pas été un vrai parcours de bien-être puisque je me suis contenté de penser que la santé économique de l'entreprise étant bonne, j'allais bien. Néanmoins, autre élément qui avait quand même changé à partir de août 2016, donc quand même pas mal de mois après la plongée aux enfers de février, en août 2016, je fais beaucoup de changements extérieurs dans ma vie.
Ouais.
Donc, par exemple, je quitte cet appartement qui était absolument horrible pour retourner habiter chez ma mère, ce qui peut sembler être une régression à 28 ans. C'était l'âge que j'avais à l'époque, mais qui, au fait, était une décision extrêmement salutaire. Je décide de me réinscrire pour la première fois depuis très longtemps à des cours de sport. Je décide...
C'est à ce moment-là que tu quittes aussi ce groupe d'amis dont tu m'avais parlé.
Voilà, je fais beaucoup de changements sur mes relations sociales. Je décide d'éviter certaines activités. Je décide d'entamer une relation amoureuse alors que j'étais célibataire depuis 5 ans. Donc, il y a beaucoup de changements extérieurs qui me font du bien, mais aucun travail intérieur.
Ouais. Qui a une bonne première base. Je veux dire, je pense que ça a déjà un premier effet en termes de bien-être d'arriver à changer ses paramètres à l'extérieur. Mais c'est les premiers pas sur le chemin, quoi.
Ouais, c'est les premiers pas sur le chemin.
Je fais juste un pas de recul là-dessus parce que c'est un truc dont on a souvent parlé. Et moi, je me rappelle, j'avais rejoint Live Mentor à l'époque après t'avoir écouté sur un podcast de c'était Nouvelle École avec Antonin Archer. Et tu avais parlé de cette semaine de 2016 où tu es à Chypre et tout change en quelques temps. Je voulais faire un pas de côté avec toi sur ça parce que c'est un truc où tu m'as souvent dit après, même il y a un an encore, que t'aimerais à nouveau avoir ces semaines, je sais pas comment on peut les appeler, ces semaines de transformation violente où il y a toute une succession de décisions assez radicales mais qui transforment profondément ta vie après. Et question que je voulais te poser, est-ce que t'as ces semaines un peu radicales, est-ce que t'as réussi à les reproduire par la suite, est-ce que t'en vois d'autres dans ton histoire, est-ce que tu vois un terreau fertile qui fait que quelqu'un qui a envie d'évoluer, de s'éveiller, d'avancer assez vite sur ce qu'il fait, peut avoir ce genre de moment un peu de bifurcation totale sur ce qu'il fait.
J'ai eu une seule autre fois, ouais. Une semaine de ce type-là, en septembre dernier.
Ok.
Et c'est la semaine où j'ai décidé d'écrire réellement ce livre, Entreprendre et surtout être heureux. C'est la semaine où j'ai décidé d'arrêter d'être nomade. Ce que j'ai été pendant près de 2 ans durant la période de Covid, pour résumer. C'est la semaine où j'ai décidé de réagencer mon calendrier chez Live Mentor d'une certaine manière. C'est la semaine où j'ai décidé de travailler avec une nouvelle coach, Anne. Donc effectivement, pour compléter sur ce que tu disais, cette idée de la semaine... moi, ça remonte donc à ce mois d'août 2016 où plusieurs mois, un peu plus de 6 mois après mon premier burn-out, je me retrouve à Chypre dans des circonstances très particulières parce que ma grand-mère est hospitalisée là-bas.
Presque, de mémoire, elle est presque prise en otage par l'assurance qui refuse de payer. Toi, je sais plus si c'est ton frère ou ton cousin qui est là aussi. Il y a toute une... Tu m'as raconté plusieurs fois, mais il y a tout un spectre de choses qui fait que c'est.
Mais c'est un sketch. Atypique.
Ouais.
Non, mais c'est un sketch. On dirait vraiment que le destin m'a mis dans une situation où j'étais obligé de me poser des questions. Parce que ma grand-mère part en vacances là-bas, à un âge assez avancé. Elle se sent pas bien et elle doit être mise à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, et elle est pas à l'hôpital public. Elle finit dans un hôpital qui dit l'assurance ne va pas couvrir les frais d'hospitalisation et le rapatriement et ça va vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc avec un de mes cousins, on part là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passe. On arrive sur place, les discussions sont très compliquées et au final, on sait qu'on va être bloqué une semaine à Chypre. Et on peut pas vraiment passer du temps avec ma grand-mère parce qu'elle est très fatiguée et elle dort beaucoup. Et durant cette semaine-là, moi, je me retrouve loin de l'équipe actuelle, l'équipe existante de Live Mentor, qui est très petite. Et je suis un peu forcé de faire le bilan sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année, de me rappeler que j'ai touché le fond en février, que depuis, la boîte commence à aller mieux, mais que dans ma vie, à moi, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et
c'est quoi les questions profondes que tu te poses à ce moment-là qui t'amènent à cette métamorphose ?
À ce moment-là, je comprends la notion de temps. Je pense que c'est le premier moment dans ma vie où je regarde mon calendrier et je me dis, si tu ne mets pas des barrières au travail, le travail pourra prendre tout l'espace que tu lui laisses. Donc,
jeu infini, quoi.
Un jeu infini. Je comprends ce truc-là. Il m'aura fallu 4 ans d'activité opérationnelle de Live Mentor, 5 ans depuis le début du projet pour le piger. Ouais. Ok, en fait, c'est bon, ça y est. Maintenant, j'ai compris. Je suis entrepreneur. Il y aura toujours un nouveau mail à traiter, il y aura toujours une modification que tu peux faire sur ton site, il y aura toujours une publication que tu peux imaginer sur les réseaux sociaux, il y aura toujours une nouvelle service, activité à lancer, il y aura toujours quelque chose. Donc,
Qu'est-ce que tu veux faire de ce temps imparti qui t'est donné, quoi.
C'est ça.
Et qui est limité et que tu dois protéger.
Voilà, et donc si tu ne mets pas des garde-fous, tu ne mets pas des barrières, si tu ne mets pas en conscience dans ton calendrier des activités qui ne sont pas le travail, bah le travail bouffera tout. Et donc un changement que j'ai fait durant cette semaine, c'est de contacter plein de cours de sport, de chant, de danse, et de mettre dans mon calendrier chaque jour une activité. Ensuite j'ai commencé une relation amoureuse et j'ai décidé qu'à chaque fois que j'allais voir cette personne, mon téléphone serait en mode avion, parce qu'à l'époque j'étais aussi assez fou pour avoir des notifications à chacun de mes mails, ce qui est un truc que j'espère plus personne ne fait aujourd'hui en 2022, parce que c'est la pire chose au monde. Moi, j'ai même plus l'application mail sur mon téléphone. Je veux plus les regarder sur mon téléphone. Mais à l'époque, j'avais les mails et j'avais les notifications. Et donc, voilà, commencer à comprendre les bases de ces notions de charge mentale, de comment se protéger face à l'information. C'est aussi à ce moment-là, en 2016, que je commence à être très vigilant à ce qui arrive dans ma boîte mail. Je commence à me désabonner de plein de sujets. Je découvre le principe d'inbox zéro. Je commence à... C'est vraiment l'image d'une maison où tout le monde pouvait rentrer. En fait, c'est ma maison. Et non, il n'y a pas tout le monde qui va rentrer.
Et tu vois, pour tisser la métaphore de ce que tu disais avec changement extérieur et changement intérieur, là, t'es vraiment, tu construis le jardin, les murs. Et ensuite, il y a... Bon, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on met comme meuble dedans et qui vient après. Mais
là-dessus, mon associé Anaïs m'a beaucoup aidé après. Quand elle est arrivée.
Cette semaine-là, elle est charnière. Ce que je vois d'intéressant, moi je réfléchis, je me dis comment je peux aussi avoir plus souvent dans ma vie ce genre de moments, ces évolutions radicales. Il y a quand même des questions que tu te poses. C'est des moments où on se pose beaucoup de questions, donc vraiment une logique introspective. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est aussi lié à le lieu dans lequel tu te trouves, qui te force à faire un pas de côté, casser un peu le...
C'est pas les bureaux.
Voilà, c'est pas les bureaux, t'es à Chypre en l'occurrence, et il se passe quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi... Et ça, je ne sais pas si on peut l'éviter pour nous amener à faire ces évolutions radicales-là, mais il y a aussi une crise, crise de ton fonctionnement, crise de peut-être l'alimentaire à ce moment-là, crise de ce truc-là. Et en fait, c'est des choses dont j'avais beaucoup discuté en stage avec certains thérapeutes avec qui j'ai pratiqué. Et la crise, on la prend souvent comme à tout prix on veut l'éviter, l'inconscient collectif de la crise économique, etc. Moins il y a de crise, mieux ça se passe. Mais en fait, parfois, ces crises-là, et qui peuvent être d'un burn-out, qui peuvent être une engueulade, qui peuvent être n'importe quel type de choses, même des problèmes économiques qu'on peut avoir, financiers, elles amènent aussi ces changements-là qui sont radicaux et qui te font totalement évoluer différemment après.
Eh oui, la crise en chinois, c'est opportunité.
C'est vrai ?
Oui. Et dans l'étymologie grecque également, le terme crisis, il est associé aux grands changements, aux grandes transformations, au moment où tu... découvre un nouveau paradigme. Maintenant, toute la nuance pour moi, elle se situe entre deux chemins possibles. Le chemin, je me pose aucune question, je fonce tête baissée, je travaille comme une brute, et à un moment, ça va casser. Et là, quand ça va casser, ça va faire très, très, très mal. Et la crise... va être effectivement génératrice d'opportunités, va être synonyme de changement, mais de changements radicaux. Moi, je peux te répéter
à quel scénario. Prix aussi.
Et à quel prix ? Mais moi, je peux te dire un scénario que j'ai vu, pas quelques fois, mais des dizaines de fois, sur des entrepreneurs que j'ai accompagnés. Je tombe en burn-out, je quitte la boîte que j'ai fondée, je quitte mon ou ma partenaire, je change de ville, il y a tout qui est, c'est une révolution à tous les niveaux. Je change d'appartement, enfin tout qui change. Et c'est bien, enfin c'est génial de réagir comme ça et de réussir à sortir du burn-out via un constat que on n'était pas aligné avec la vie qu'on menait et on la redécide. Moi, toute l'approche, par contre, que je propose dans Entreprendre et surtout être heureux, c'est comment je passe par des mini-révolutions avant le burn-out.
J'aime beaucoup.
chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, j'ai ces moments de révélation qui peuvent être douloureux, qui peuvent être pénibles, mais qui permettent de réajuster, de se dire « Ah, attention, là, il y a un truc qui coince là, dans la manière dont je conduis mon activité de musicien, de thérapeute, de freelance. Il y a quelque chose là où je suis en train de ne pas m'écouter, je suis en train de souffrir, et c'est bon ni pour l'entreprise ni pour moi-même. »
Et ces mini-révolutions-là, tu les provoques comment ? Comment elles se passent ? J'imagine que tu en parles dans le livre. Il n'est pas encore sorti, donc je ne l'ai pas lu. Mais...
Il y a plein d'activités, il y a tellement d'outils, il y a tellement d'exercices. Déjà avant de...
Est-ce que tu penses à 2-3 ingrédients qui peuvent...
Oui, mais déjà je voudrais remercier toutes les personnes sur lesquelles je me suis appuyé pour écrire ce bouquin, parce qu'il y a mes petits exercices à moi, mais honnêtement, il y a surtout une littérature qui est malheureusement invisible chez les entrepreneurs, incroyable, qui existe.
Qui vient quoi ? Du côté de thérapeute, plutôt ?
Oui, qui vient de psychiatre, qui vient de thérapeute, qui vient de psychologue. Mais par exemple, on peut citer le bouquin sur process communication.
Que tu m'avais fortement recommandé, que j'avais raison.
De l'auteur Collignon. On peut parler du travail qu'a fait Kevin Chassangre sur le syndrome de l'imposteur. On peut parler des philosophes comme Kierkegaard ou Marc Aurèle, qui sont des vieux sages, mais qui sont...
Ils sont encore là.
Qui sont encore là.
Ça dit tout.
Et ça dit tout. On peut parler, ça moi j'insiste pas mal dessus dans le livre, parce que de la religion de l'individu volontaire, du sociologue Marquis. Ça, c'est très intéressant, je vais le détailler dans un instant. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai lu une trentaine de livres depuis 2018, et principalement depuis 6 mois dans le cadre de la rédaction d'Entreprendre et surtout être heureux. Et je regrette que ces bouquins-là ne soient même pas dans les rayons entrepreneuriat. Ce n'est pas qu'ils sont au fond des rayons entrepreneuriat dans les librairies, ils ne sont pas dans les rayons entrepreneuriat. Dans les rayons entrepreneuriat, il n'y a que des bouquins sur comment avoir plus de clients.
Ouais. Et finalement, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est... On se situe dans une bulle où vraiment on se concentre sur la partie business de ce qu'on fait, en oubliant la partie humaine qu'il y a derrière et qui nécessite elle aussi des compétences à apprendre, quoi. Des choses qui vont nous permettre de mieux avancer. Et ce truc-là, il ne faut pas le négliger, quoi.
C'est ça, c'est la connaissance de soi. Et donc, à partir de ça, à partir de toutes ces ressources, toute cette littérature que je recommande vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent, moi, je propose une approche toujours en 3 étapes. La première, c'est prendre le réflexe de s'écouter, prendre le réflexe d'être au contact de ses émotions, prendre le réflexe d'écrire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, la liste d'activités qui nous ont donné de l'énergie, la liste d'activités qui nous ont enlevé de l'énergie. Sortir du regard vers le futur, sortir du culte des objectifs et des plans annuels 2022, 2023, etc. C'est ça le problème qu'on a dans la culture, c'est qu'on commence toujours, quand on rencontre un autre entrepreneur, par lui poser cette question-là. C'est quoi tes challenges ? C'est quoi ta mission ? C'est quoi tes objectifs de croissance ? Et c'est très dangereux de commencer la conversation par ça. Ce serait beaucoup plus intéressant de poser la question : qu'est-ce que tu as appris depuis 12 mois ? Qu'est-ce qui t'a fait du bien ? Qu'est-ce qui t'a éclaté ? Qu'est-ce qui au contraire t'a fait souffrir ? Et donc commencer par essayer de comprendre le passé, comprendre le ressenti au présent, et ensuite aller creuser si on détecte en fait qu'il y a un syndrome de l'imposteur, si on détecte qu'il y a de la comparaison excessive, si on détecte qu'il y a l'obsession du détail, essayer de comprendre d'où ça vient, de comprendre précisément ce qu'il y a derrière l'obsession du détail par exemple, et derrière mettre en place des solutions à la fois dans sa boîte, dans son projet, dans ses créations, mais aussi des solutions purement intérieures.
J'aime bien, c'est vraiment s'écouter, quoi. Placer au centre, et tu vois, des trucs tout bêtes, mais moi je me dis, le matin on se lève, on avance, on part à fond dans nos journées, les objectifs qu'on a à faire ce mois-ci, alors que juste prendre le temps de regarder son corps et de se dire, ok, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que j'ai mal au dos ? Est-ce que émotionnellement ça va ?
Il y a plein d'outils pour ça. Moi, tu vois, un des outils que j'utilise, là, ça va être parti pour le segment sorcier de ton podcast, mais pour moi, le tarot de Marseille, est un outil incroyable d'introspection. Incroyable. Et moi, je l'utilise non pas comme un outil pour lire l'avenir, mais comme un outil d'introspection. Dans le Donc moi, j'ai appris le tarot via principalement les livres de Jodorowsky, via aussi des sessions avec, de formation avec des tarologues. Un élément que je trouve incroyable dans le tarot de Marseille, c'est les quatre dimensions. La dimension spirituelle, la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle et la dimension corporelle slash sexuelle. Et donc, par exemple, l'exercice de la météo, qui est déjà très bien, tu vois, nous, c'est quelque chose qu'on pratique dans les accompagnements live mentors. Un mentor, un ou une des 100 mentors qui accompagne les personnes qu'on suit dans nos formations, va très régulièrement demander à la personne en face, c'est quoi ta météo, c'est quoi ton sentiment aujourd'hui. Bah, par exemple, ajuster la question de la météo pour aller à un niveau de précision sur c'est quoi la météo spirituelle, c'est quoi la météo émotionnelle, c'est quoi
Comment
la météo
tu te sens
corporelle.
Sexuellement.
Bah, non, je blague. Là, ça dépasse. Oui, très bien. Ça dépasse nos formations, mais par contre, tu peux te poser cette question-là.
Pose pas ça comme question, les mentors.
Toi, tu peux te la poser. Et moi, je me la pose en tout cas. Tu vois. Moi, je crois énormément au bienfait de l'énergie corporelle ou sexuelle, car, tout à fait, mais autant que le spirituel et l'émotionnel.
Et tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, c'est presque utiliser le tarot comme un prompt, une manière de se dire, de se questionner sur « Ah oui, mais bien sûr que je peux me poser la question de comment je me sens à l'instant T, mais est-ce que je peux le décliner en comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions, comment je me sens dans… etc. etc. »
Non, mais pour continuer sur cette affaire-là de sexualité, parce que
je croyais que tu allais parler du café que tu viens de boire, ouais,
qui est
dégueulasse. Qui
est dégueulasse, mais on racontera en commentaire de la vidéo comment on a fait ce café. Non, mais pour continuer sur le sexuel, tiens. Parce que je sens que le sujet te passionne, Kylian.
Moi, je suis un passionné de sexe, Alex, tu le sais. Ça se voit partout, sur mon visage.
Tu as dû voir cette émission-là, Qui veut être mon associé.
Oui.
Où il y a une start-up qui vient pour demander des fonds. C'est ça le principe. Hein. Donc, tu es une entreprise, tu viens, tu demandes des fonds.
Je connais le pitch, jamais trop regardé. Mais ouais.
En gros, tu viens et tu as.
Ouais, c'est Shark Tank, la version française.
Voilà, tu as 4 ou 5 entrepreneurs. Qui sont des investisseurs en fait, en face de toi. Tu leur présentes ton concept et ils te disent en direct s'ils mettent de l'argent ou pas dans ta boîte. Et il y a récemment une entreprise qui est passée chez eux qui s'appelle Puissante et qui produit et commercialise des sextoys féminins. Et j'invite tout le monde à aller regarder ce que fait cette boîte, qui est une boîte géniale, qui a subi des réactions d'un autre âge de la part des membres du jury quoi, qui n'ont absolument pas compris la démarche et l'intention de cette boîte, qui ont résumé ça à « bah ouais, vous vendez des sextoys, c'est sympa pour s'amuser en couple ». C'est complètement ridicule en fait. Et donc évidemment, pour certaines parties, on va dire, de l'écosystème entrepreneur en France, arriver avec comme mission de changer notre rapport au plaisir, de changer notre rapport à la sexualité, ça manque de révolution technologique, c'est juste un petit machin qui vibre, c'est pas ça le prochain Google, c'est pas ça le prochain Facebook. Mais c'est catastrophique de penser comme ça, en fait. C'est pas comprendre que la technologie, c'est une chose et ça a un rôle dans la société et ça permet plein de choses. Moi, ma boîte n'existerait pas sans la technologie. Live Mentor fait des formations en ligne. S'il n'y avait pas de visioconférence, il y a des milliers de personnes qui ne pourraient pas se former chaque année. OK. Mais il n'y a pas que ça. Et la révolution de Puissante, ce n'est pas une révolution techno, c'est une révolution dans notre rapport à notre corps, dans notre rapport au bien-être, qui est de dire, bah, y a un de ces éléments qui est le plaisir qu'on peut se donner avec son propre corps ou le plaisir qu'on peut donner avec au corps de quelqu'un d'autre. Et on ne propose pas juste des outils, on propose une démarche, une philosophie, une éducation aussi sur ces thèmes-là. Et donc, la boîte s'est fait moquer et elle n'a pas été prise au prochain tour de sélection de l'émission télé. Enfin, moi, je peux dire, c'est le genre de boîte dans lequel je rêve, que je pourrais rêver de fonder un jour. Ouais. Et je rêve d'investir chez eux.
Mmh. C'est marrant parce que c'est...
Si...
S'ils nous écoutent...
Bah, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais si je peux mettre 10 000 euros, je les mets tout de suite. Ouais.
Ce qui est marrant, c'est que ça en dit long un peu sur le prisme dans lequel on évolue, même en tant que société, tu vois. Je me dis, on réfléchit toujours à des révolutions qui sont technologiques, alors qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, il peut y avoir des révolutions qui sont de tout autre type, mais qui apportent énormément à la société, tu vois, en replaçant des choses au centre.
C'est ce qu'on voit dans tous les projets qu'on accompagne.
Ouais.
Le point commun de tous les projets Live Mentor, ils sont tous et toutes l'expression de révolution sociétale.
Ouais.
Et pas de révolution technologique. Le nombre d'entreprises qu'on voit passer qui ont une démarche éco-responsable, le nombre de projets qu'on voit passer qui œuvrent à leur niveau pour un changement dans les rapports hommes-femmes, le nombre de projets qu'on voit passer qui œuvrent pour un meilleur... éveil à ce que c'est que la parentalité, les projets qu'on voit passer, par exemple on a accompagné différentes entreprises qui produisent et commercialisent des culottes menstruelles, tu vois, comme Fempo et d'autres, des marques éco-responsables comme Atelier Une, enfin je pourrais en citer, tu vois, le nombre de thérapeutes qu'on accompagne. Mais les thérapeutes, c'est aussi une révolution, tu vois, l'augmentation est très forte du nombre de praticiens de médecine douce.
Ouais.
C'est une vraie révolution. Parce que là, t'entends quoi dans la radio, les ministres, de quoi ils parlent en ce moment? Du désert médical. Du fait que même si on augmente les lits à l'hôpital, plus personne veut bosser. Plus personne veut être docteur ou infirmier, infirmière. Parce que les conditions de travail, c'est de la merde. Et donc, par contre, mais ça veut pas dire que plus personne ne s'intéresse aux soins et au bien-être des gens. Non, non, non. Ces personnes-là qui quittent les hôpitaux, une majorité, elles décident pas de devenir avocat ou expert financier. Elle décide de se mettre à son compte en tant que praticien de médecine douce et de thérapie alternative. Et c'est super intéressant de voir les liens qui se créent d'ailleurs entre la médecine traditionnelle et ces nouvelles approches-là. Et moi, tu vois, dans les autres projets qu'on a vu passer en formation à Live Mentor, on avait eu l'entreprise derrière Bernadette de Gasquet, qui ouais. est une personne qui a complètement transformé le yoga prénatal, et, enfin, qui a inventé d'une certaine manière le yoga prénatal et postnatal, qui fait énormément de bien aux femmes enceintes. Voilà, enfin, bon, je pourrais parler longtemps de ces sujets-là, mais je pense que c'était important de faire cette différence entre révolution technologique et sociétale.
Et tu vois, je trouve ça intéressant parce que moi, ça me fait penser aussi à un parallèle sur tous les auditeurs qui écoutent le podcast, et même moi en tant que créateur d'inspiration créative. Tu peux te placer en fait en tant que créateur sur plein de révolutions. Je veux dire, à travers ton art, à travers ce que tu proposes, à travers ce que tu imagines comme projet, ce que tu crées, tu peux toucher à des choses très révolutionnaires en termes d'émotions, tu peux toucher à des choses très révolutionnaires en termes de sujets de société, etc. Et en fait, c'est aussi sur ces vagues-là sur lesquelles tu surfes que tu vas pouvoir aussi construire une activité.
Mais l'art-thérapie.
Ouais, et c'est super.
L'art-thérapie,
mais tu vois, je trouve ça intéressant en tant que créateur de se dire, ok, bien sûr que je peux essayer de réfléchir à l'art isolé de tout, mais je peux aussi réfléchir à comment, dans ma création, dans quelle révolution je m'insère et je m'intègre et avec laquelle j'avance, quoi.
Ouais, et c'est là où justement tu crées un mouvement autour de toi et tu sors d'une approche complètement isolée, ce que j'appelle moi l'approche chercheur,
ouais.
Le danger du chercheur, pour être dans une vraie approche entrepreneuriale, dans être dans la création d'un mouvement, tu vois, un artiste que moi j'adore, je l'ai déjà mentionné, c'est Jodorowsky. Je l'adore pour le tarot.
Je prépare une aventure, Alex. Je te dis ça en off, mais voilà. Peut-être que Jodorowsky va venir un moment sur le podcast. J'y travaille dur.
Bah, écoute, moi je suis en train de créer un jeu de société qu'on va lui envoyer. Donc on pourra peut-être.
Est-ce qu'on ne ferait pas un truc ensemble là-dessus, hein.
On devrait faire venir jouer au jeu de société dans ton podcast. Mais c'est un type incroyable et il a été donc réalisateur. Avant d'être tarologue, avant d'être aussi créateur de bande dessinée. Et je me rappelle qu'il avait dit de son film La Montagne Magique, je crois que c'était La Montagne Magique.
C'est lunaire comme film. Hein.
Ouais, et bien justement, il avait dit, je veux que ce soit un film pour la génération qui prend du LSD et qui leur donne les mêmes sensations que le LSD sans en prendre.
Très bien. Fine.
Mais derrière ça, moi, ce que j'entends, c'est un créateur, c'est un artiste qui s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans la société actuelle, à l'époque, oui, il y avait l'émergence des psychédéliques. Quel message j'ai envie de faire passer ici? Et peut-être que le message, c'est que les psychédéliques nous permettent de voir la réalité d'une manière qui est modifiée, et on n'arrive pas à le faire en temps normal. Est-ce qu'il n'est pas possible, via un film, de voir cette réalité-là, de voir la réalité comme si on était sous psychédélique, sans en prendre? C'est incroyable.
Et tu vois, ça me fait penser à un truc aussi que je trouve très vrai. C'est aussi, Jodorowsky, ça va être quelqu'un qui va explorer des territoires inexplorés de la carte. Tu sais, on a vraiment ce truc de la carte. Il y a des choses qui sont très répertoriées sur la carte de la société dans laquelle on vit. Tu veux devenir docteur, médecin, avocat. Bon, bah, tu sais que tu fais tes études, etc. Tu arrives à un certain métier et tu gagnes ta vie, tu vois. Et là, pour moi, c'est des gens comme Jodorowsky et tout type de créateurs qui vont explorer des endroits où, ah ouais, bah, on n'a jamais fait un film qui a pour vocation de répliquer des sentiments psychédéliques sous LSD. Et tu vois, je pense que c'est aussi un truc de se dire comment, en tant que créateur dans mon travail, je peux aller explorer des endroits inexplorés de la carte pour aussi en récupérer derrière une forme de succès, ou en tout cas, il y a quelque chose d'atypique qui va exister derrière, parce qu'on va aller sortir des sentiers battus que les gens connaissent habituellement, quoi.
100%. Et c'est le message complexe que j'ai essayé de faire passer dans le livre. Oui, la démarche entrepreneuriale, la démarche de création, la démarche artistique génère des blessures. La démarche même crée des problématiques de santé mentale, fait peser un risque sur notre bien-être. Les différents stades de développement d'un projet vont systématiquement nous mettre face à des défis de bien-être et de résilience émotionnelle. Mais dans le même temps, cette démarche entrepreneuriale, cette démarche de création est un facteur d'accélération de notre connaissance de nous-mêmes, est une thérapie incroyable pour, avec plus d'aisance, aller aux frontières de la carte, comme tu dis, parce qu'on se connaît mieux et on est guidé, notre intuition nous amène là où on va pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est un... c'est quelque chose que moi, je me dis souvent, qu'est-ce que j'aurais fait durant les 5 premières années de Live Mentor avec mon double actuel à côté de moi, à côté de mon épaule, ouais. pour me passer ce me permettre d'avoir ces conversations, parce que c'est vraiment une manière de voir la création qui est complètement différente.
Tu parlais tout à l'heure donc de ce premier burn-out, ce premier moment où tu vas vraiment au fond du trou, qui amène donc les changements extérieurs. J'imagine que le deuxième, du coup, amène peut-être des changements intérieurs. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait évoluer dans tes pratiques intérieures pour justement ouvrir cette partie-là du chemin.
Le deuxième, il amène en autre changement extérieur le recours à des thérapeutes et à des coachs,
ouais.
Mais qui sont donc des intervenants extérieurs
au service de l'intérieur,
au service d'un questionnement intérieur. C'est aussi à ce moment-là que, dans la relation avec mon associé Anaïs, on a commencé à prendre du temps régulièrement pour se poser des questions sur ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime faire, là où on se sent moins à l'aise, ce qui nous fait peur. On a commencé aussi à étendre ça à d'autres personnes de l'entreprise Live Mentor pour essayer de comprendre, dans les personnes qui dirigent les équipes, qui a un profil très analytique, qui a un profil décideur, qui a un profil rêveur, qui a un profil créatif et recomposer en permanence. Et après, je dirais que c'est une pratique, tu vois. Moi, ce que je dis depuis, c'est que depuis 2018, je suis en pratique sur le chemin du bien-être. Et je crois que t'es jamais arrivé à ce, t'es jamais arrivé sur ce chemin-là. Il y a pas de destination finale. Moi, l'été dernier, j'ai perdu ma grand-mère, qui avait 99 ans, et ça m'a fait beaucoup de mal parce que ça m'a rappelé toutes les années où je ne l'ai pas assez vue. Je me suis vraiment revu très clairement, recevoir des textos, quand est-ce que tu passes à la maison déjeuner? Non, je ne peux pas, je travaille. Et là, tu sens vraiment con, tu vois. Ouais,
parce que là, les relations de vie sacrifiées sous le, sur l'autel de.
Bah voilà, parce qu'en fait, la gestion de travail, quand tu vois maintenant le résultat qu'elle a eu à l'époque, bah, c'était rien du tout. C'était, c'était travailler pour rien. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. C'est exactement pareil. Et puis, bah, le déjeuner, maintenant, je ne peux plus l'avoir. Et je ne pourrai plus jamais l'avoir de ma vie. Donc, voilà, quand ma grand-mère est décédée, je suis passé par une phase compliquée. Il y avait d'autres éléments un peu chauds qui se passaient dans l'entreprise à ce moment-là. On venait de finir un process de levée de fonds, ce qui est typiquement le genre de choses que je déteste faire. Moi, je tire aucun plaisir à structurer des pactes d'actionnaires, penser des allocations de ressources, etc. Mais heureusement, grâce au travail fait depuis 2018, cette fois, j'ai pu anticiper. J'ai pu prévenir, j'ai pu me dire en fait qu'est-ce qui est en train de se passer, essayer de comprendre une partie des causes et puis faire quelques changements pour auto-réguler. Voilà. Toujours cette image de l'oscillateur où tu essayes de ne pas avoir des variations trop profondes, mais d'auto-réguler par contre très rapidement.
Sur ce truc-là depuis 2018, sur les pratiques que tu as mises en place, on va dire de bien-être, qui te permettent intérieurement d'aller te sentir mieux, en tout cas plus serein dans le quotidien. Est-ce qu'il y a, il y en a une en particulier qui a fait une vraie différence pour toi, que tu vois ?
Non, mais moi je fonctionne plus par philosophie.
Ouais.
Donc aujourd'hui, ma philosophie prédominante, c'est que la connaissance de moi-même et des gens autour de moi compte plus que mes routines. Les routines comptent. Tu vois, je vais courir une heure par jour, j'essaye d'avoir des moments dans la nature ou à l'océan une fois par semaine ou toutes les deux semaines, couper mon téléphone quand je suis avec toute personne qui n'est pas le boulot, ça compte aussi beaucoup, les heures de sommeil, enfin voilà, tout ça, ça existe.
Des routines.
Mais c'est moins important que le premier volet sur la connaissance de soi. Et donc, c'est pour ça que j'utilise plein d'outils différents. Process communication, qui est donc un test inventé par la NASA dans les années 60 suite au crash d'une navette spatiale, et qui est un test de personnalité que je trouve d'une efficacité incroyable, qui est un outil parmi d'autres qu'on peut mobiliser pour mieux se connaître. J'utilise les archétypes de Jung, j'utilise le tarot de Marseille, j'utilise aussi des coachs. J'ai travaillé avec une coach qui s'appelle Anne, j'ai travaillé avec un autre coach américain, Alex, sur l'addiction au travail. Je l'ai utilisé dans le cadre de la rédaction de Entreprendre et surtout être heureux. Je m'inscris à des séminaires ou des retraites thérapeutiques. Voilà, je mets plutôt, tu vois, ce pan-là en première place par rapport aux routines pures et dures.
Et c'est très intéressant de voir, moi je vois le Alexandre de 2022. J'ai connu celui de 2017, un an après le pivot. Et c'est fou de voir aussi à quel point, en 5 ans, nos priorités personnelles peuvent énormément évoluer. Moi, je t'ai connu, c'était un Alexandre bourreau de travail. Et tu travailles aujourd'hui encore beaucoup, mais avec une toute autre approche. Tu vois, je sens qu'il y a d'autres identités de toi qui sont développées, qui ne sont pas que celles d'Alexandre avec sa casquette de patron de Live Mentor, quoi.
Ouais, parce que moi, ma blessure, c'était l'obsession du travail.
Ouais.
C'était l'obsessionnel du détail, pardon. Obsessionnel du détail. C'était ma grande blessure. Et ça l'est encore aujourd'hui, je pense. Ouais. J'ai pas eu le syndrome de l'imposteur depuis 2012. J'ai pas eu. J'ai eu un peu la peur de l'échec. J'ai eu beaucoup la comparaison excessive, ce qui m'a mené à mon premier burn-out. Heureusement, je l'ai compris. Et maintenant, ça, je pense que j'en suis guéri à vie. Par contre, l'obsession du détail.
Du travail, tu veux dire ?
Non, du obsession du détail, mais du qui, détail. Qui en fait qui est l'obsession du détail dans le travail, donc on peut employer les deux termes, mais l'obsession du détail est sûrement le sujet, la blessure qui m'a fait le plus de mal depuis 2012, et notamment à partir du moment où Live Mentor a commencé à fonctionner. Et je continue d'être en combat face à cette blessure. Ça, je pense que c'est pas résolu. Et effectivement, en travaillant dessus, en comprenant les causes, j'ai pu identifier que l'obsession du détail vient non pas de quelque chose qui est cassé dans l'entreprise ou dans quelque chose qui est cassé dans notre rapport à l'entreprise. C'est quelque chose qui est cassé au niveau des autres identités. C'est qu'on a notre identité d'entrepreneur, notre identité de fondateur, de fondatrice, a effacé nos autres identités, l'identité de sportif, l'identité de parent, l'identité d'enfant, dans le rapport avec ses parents à soi, l'identité d'artiste, si on a une activité artistique à côté, l'identité d'amoureux, d'amoureuse, etc. etc. Et donc, l'approche que je propose dans le chapitre 5 d'entreprendre et surtout être heureux, qui est dédié à cette blessure-là, c'est une approche qui consiste à travailler sur les autres identités, avec notamment l'outil, leur donner de la place, notamment avec l'outil de l'avatar que je trouve incroyable, détaillé par un coach américain qui s'appelle Todd Herman, et qui est assez connu dans le monde des artistes. Beyoncé est très connu pour avoir pour utiliser un avatar. David Bowie était aussi célèbre pour avoir plus de 10 et même plus de 15 avatars.
Ça fonctionne comment ?
En fait, tu crées un personnage fictif à qui tu vas donner un prénom, un nom, des attributs, une manière de parler, une manière de s'habiller potentiellement.
Je trouve que c'est presque un exercice créatif de se projeter dans la peau d'un autre pour se dire qu'est-ce que cette personne ferait avec ces caractéristiques-là de personnalité.
C'est jouer avec les différentes voix autour de en ton sein. Et c'est super utile pour quelqu'un qui...
Tu l'as fait pour toi ?
Ah oui, complètement. Okay. Moi, j'en ai 3. Moi, j'ai juste 3 avatars.
Tu fais comment ?
C'est un très long sujet, mais je peux si je te les détaille tous, on est parti pour une heure. Mais en tout cas, j'ai un avatar en tant que fondateur de Live Mentor. J'ai un avatar pour l'écriture. Et j'ai un avatar pour le cirque, pour ma pratique des arts du cirque. Et donc, quand... Ça m'aide, c'est une astuce mentale, moi ce que j'appelle les pièges pour notre cerveau, mais qu'on se tend à nous-mêmes. Ça m'a aidé par exemple sur les 4 mois d'écriture d'entreprendre et surtout être heureux à jongler entre une activité de fondateur et une activité d'écrivain. Je pouvais pas arrêter mon activité de fondateur, je peux pas vis-à-vis de mon équipe dire attendez, là je me fais un plaisir, j'écris un livre, j'existe plus pour le reste de la boîte. Je peux pas faire ça. J'ai pas envie de le faire. Et je peux pas le faire.
Les deux existent en parallèle.
Les deux existent en parallèle. Maintenant, comment tu fais pour faire exister les deux en parallèle ? Bah, y a pas d'histoire de surhumain, surhomme, etc., surfemme. Non, il y a d'autres outils. Et l'avatar est un de ces outils pour faire en sorte que quand tu commences à te mettre à écrire, t'es que là-dedans, uniquement là-dedans. Et tu te dis, ok, voilà, je passe sur tel avatar.
C'est super intéressant parce que je trouve qu'on peut aussi s'épuiser énormément à changer de casquette en permanence dans une journée. Tu vas démarrer le matin, tu vas être le papa, ensuite tu vas être le chef d'entreprise, ensuite tu vas être le créateur, ensuite tu vas être le conjoint, ensuite tu vas être celui qui fait du cirque, celui qui écrit, etc. Ça peut être énormément énergivore aussi.
Mais c'est pour ça que les routines, en fait, sont l'aspect visible de ce travail intérieur. Quand tu vois... Par exemple, les grands sportifs qui ont toujours la même manière de mettre leurs chaussettes ou leurs chaussures avant de monter, avant de rentrer sur le stade de foot, par exemple pour les footballeurs.
Nadal qui place sa bouteille d'eau.
Ouais. Exactement. Les nageurs olympiques, tu vois, la manière dont ils mettent le bonnet, etc. La danse que certains ou certaines peuvent faire avant de commencer à plonger. Tout ça, c'est des routines extérieures, c'est un conditionnement, mais qui n'est que l'écho d'un travail intérieur. Et moi, j'ai notamment pu échanger avec un coach d'athlète français, coach de médaillé olympique français, qui me racontait que l'essentiel de son travail consiste à faire accepter à des athlètes qui ne sont pas encore numéro 1 qu'ils ou elles ont envie d'être numéro 1 et peuvent être numéro 1. Tu sais, il y a toujours le mythe du Poulidor. Poulidor, c'était le cycliste français qui était toujours deuxième.
Éternel deuxième.
Donc, lui dit, mon travail, c'est ça. C'est, je prends des gens qui ont ancré dans leur identité, je suis deuxième. Et je leur dis, ok, maintenant, si on devait créer ton avatar, ton alter ego qui est premier, comment il s'appelle, comment il se comporte, comment il réagit dans telle ou telle situation. Et moi, je suis passionné par ces sujets-là parce que plus j'avance, plus je vois dans les entrepreneurs qu'on accompagne que les compétences techniques ne sont qu'un élément qui explique le développement de l'entreprise et le bien-être. J'ai vu se répéter un nombre incalculable de fois, toujours la même situation. 5 personnes arrivent en formation en même temps, avec 5 fois le même projet, quasiment à la virgule près, c'est le même projet, avec 5 fois les mêmes compétences techniques avant le début de la formation. Après le début de la formation, tu regardes les cours visionnés durant la formation, c'est quasiment les mêmes. Tu regardes les notes aux évaluations, c'est les mêmes. Et pourtant, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il y a des trajectoires très différentes. Et ça, quand tu creuses et que tu fais des études qualitatives et que tu interviews les personnes, tu te rends compte que, ah oui, en fait, il y avait une maîtrise des compétences techniques, mais il y avait des blessures, qui, comme la peur de l'échec ou le syndrome de l'imposteur, qui, dans certains cas, ont été super bloquantes.
C'est ce que je trouve très intéressant aussi dans ce principe d'avatar, c'est aussi que forcément, tout en existant individuellement, ils communiquent aussi entre eux. Et tu vois, on revient un peu à des logiques de monopole personnel qui sont les croisements de sujets, de prédilection qui sont importants pour toi. Par exemple, à quel point l'écriture va communiquer de temps en temps avec le cirque et faire que tu vas écrire certains articles uniques parce que tu as cet enthousiasme du cirque. Tu vois, je caricature hein, juste pour l'exemple. Mais c'est marrant de voir que parfois, certains pôles d'expertise qu'on a, qui peuvent être totalement antagonistes, l'entrepreneuriat et le billard, n'importe quoi, peuvent aussi avoir un truc qui fait que tu vas forger toi des choses uniques qui te ressemblent qu'à toi quoi.
Alors là tu touches à un sujet qui me passionne sur la créativité, qui est d'aller à l'encontre de la culture française, de l'élitisme français, qui consiste à dire le meilleur pianiste c'est celui ou celle qui sait le mieux jouer du piano.
On en avait parlé avec Marina Chiche. Très intéressant. C'est pas du piano, c'est du violon, mais très intéressant.
Absolument, Marina Chiche, qu'on salue effectivement. Violoniste incroyable. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer de près. J'ai été son mentor pendant 6 mois et j'ai beaucoup appris de ce travail qu'on a fait ensemble. Et effectivement, Marina, elle représente, elle personnifie cette vision alternative où, bien sûr qu'il y a les compétences, en plus elle les a, les compétences techniques, mais outre les compétences techniques, dans la magie de ce qu'elle fait, il y a son goût de la narration, il y a ses connaissances de culture générale très poussées, il y a sa capacité à tenir un discours et pouvoir faire passer des messages sur la place qu'ont eu ou que n'ont pas eu les femmes dans l'histoire du violon. Et donc aujourd'hui, tu vois, elle a d'ailleurs plusieurs activités. Marina, elle fait des concerts, mais elle a aussi une activité de journaliste. Elle a aussi sa propre communauté. Et en fait, je pense que derrière ça, il y a cette idée que on a plein de cordes à notre arc et t'es pas forcément le meilleur sur un sujet donné. Par contre, si tu vas chercher dans tout ce que tu as, tu vas créer quelque chose de unique et de super singulier. Et ça, moi, je l'ai vu dans mes voyages en tant que nomade. J'ai passé beaucoup de temps au Mexique, au Guatemala, à New York aussi. Et j'ai vu là-bas une vision très, très différente de la créativité qui n'est pas basée sur l'excellence, qui n'est pas basée sur l'élitisme, qui est basée sur une sorte de mélange, un fouillis, un chaos créatif. Je trouve que Jodorowsky personnifie ça complètement. C'est pas le meilleur réalisateur, techniquement. Et ses films sont incroyables et c'est unique au monde. Et quand j'essaye de développer la créativité de la marque Live Mentor, je me pose cette question-là. Et je trouve que le travail qu'on a fait sur la couverture d'Entreprendre et surtout être heureux, ça a été le fruit de ça. C'était le fruit de plusieurs années à coincer, à se taper la tête contre les murs et à se dire non, mais en fait, on n'est pas chez Live, on n'est pas des créatifs, on est bon pour raconter des histoires, mais par contre, tout ce qui est visuel, photo, c'est pas notre truc, on n'a pas ces compétences-là. En fait, c'est complètement faux, c'est une barrière mentale qu'on s'est imposée. Et là, on a eu la chance d'avoir notre designer Anthony qui a créé le département design de la boîte, qui a dit, mais attendez, on va avoir une réflexion créative sur ce projet. On va se demander, c'est quoi le message qu'on veut transmettre? C'est quoi les valeurs? Ok, c'est un livre sur la tempête émotionnelle du voyage entrepreneurial. Comment est-ce qu'on peut représenter cette tempête émotionnelle? On va demander à quelqu'un de jouer plusieurs émotions. Et donc, on a Estelle Haas, qui est coach en prise de parole et comédienne, qui a accepté de faire le tournage avec nous et qui joue ces différentes émotions sur la couverture.
Une couverture assez atypique, ouais.
Ouais, qu'on n'a jamais compte. C'est une couverture. Personne n'a fait ça dans les rayons entrepreneuriat et dev perso.
Et tu vois, ce que j'entends là, que je trouve très intéressant, c'est que la richesse de ton univers créatif ne se limite pas en fait à la richesse de ton expertise. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es très bon en illustration que tu vas devenir un très bon illustrateur. Tu vas devenir très bon si tu es très bon en illustration, certes, mais si tu enrichis ton univers de plein de choses aussi autour. Peut-être que j'ai un exemple en tête d'une fille qui s'appelle La Ville et les Nuages sur Instagram et qui partage des tas de TikTok de chiens, tu vois. Et ses illustrations sont magnifiques à côté. Mais dans cet univers créatif qui est le sien, il y a aussi les TikTok de chiens, tu vois.
Ouais.
C'est juste pour exemplifier. Mais c'est là où c'est intéressant de se dire, voilà, si tu veux devenir très bon, bien sûr, progresse, affine, travaille ton art et deviens meilleur sur l'écriture, écris des bons livres. Mais qu'est-ce qu'il y a autour qui va alimenter tout ça aussi et qui va faire que tu as un univers riche et atypique?
Bah regarde, je sais pas quand sortira la vidéo, peut-être que l'événement aura déjà eu lieu, mais ou s'il a pas eu lieu, c'est pas grave, la surprise aura été ébréchée. Mais on organise un événement le 31 janvier avec Live Mentor. Il y a 100 personnes qui ont pris leur place.
L'épisode sera déjà sorti. L'épisode sera pas encore sorti.
Ah bah très bien.
Donc, tu peux le teaser ici.
Et bah donc dans cet événement, à un moment de la soirée, on va faire un jeu. Donc, c'est un événement qui s'intitule « Comment trouver et tester son idée entrepreneuriale ». Donc, le cœur de l'événement, c'est assez sérieux. C'est comment j'identifie les différentes idées sur lesquelles mon entreprise pourrait être construite. Comment j'apprends aussi à me connaître, moi, pour créer une entreprise autour de mes forces. Comment je définis une vision d'entreprise en s'inspirant de ce qu'avait fait Walt Disney en 57. Donc, ça, c'est le cœur de l'événement. Et puis, à un moment, on organise un jeu. Et on a une grande roue, on s'est procuré une très grande roue, et la personne qui gagne le jeu est invitée à tourner la roue, et elle va avoir différents cadeaux autour de la roue, et donc elle va tomber sur un des cadeaux possibles. Et chaque cadeau, c'est un pack de cadeaux. Donc ça peut être un pack de livres, ça peut être un pack de carnets, ça peut être un pack de jeux de cartes, de développement personnel. C'est un pack. Et une fois que la personne aura gagné, on va lui dire qu'une valeur forte chez Live Mentor, c'est la générosité. Et donc, on va proposer à cette personne en direct de redonner devant nous, maintenant, à des inconnus, des personnes qui sont également participants ou participantes à l'événement, de leur donner une partie des cadeaux qu'elle vient de recevoir.
Partagez ça, quoi.
Ça, tu vois, c'est...
C'est beau, ça. C'est cool.
Ça va être très marrant, ça va être chouette. Cette idée-là, elle vient de moi, ma pratique personnelle aux anniversaires, parce que depuis 4 mois, je fais ça aux anniversaires. J'arrive avec plusieurs cadeaux, je les donne à la personne de son anniversaire et je lui dis de les redonner aux gens autour d'elle. Et j'ai vu dans ce cadre-là de l'anniversaire que ça marchait super bien et ça crée une expérience trop marrante où tu vois une personne qui est prise au dépourvu, qui a des cadeaux et qui se dit « mais comment est-ce que je les redistribue ?» Et j'ai hâte de le faire avec... la communauté Live Mentor, parce que la valeur derrière ça, c'est on est là pour s'entraider, on est là pour échanger, on est là pour s'apporter les uns les autres. Et donc, tu vois, donner un cadeau, en fait, c'est une métaphore de ce que tu peux donner tous les jours dans notre communauté en aidant quelqu'un qui se pose une question sur son projet. Tu peux lui faire le don de ton temps, tu peux lui faire le don d'une ressource X ou Y. Donc, voilà, la créativité, c'est pas une question... d'agence que tu dois forcément recruter pour t'aider à être créatif. C'est pas une question d'études, c'est pas une question d'expérience passée, ça peut venir de n'importe où.
On arrive petit à petit à la fin de l'épisode. Y a un sujet que je voulais aborder avec toi, qu'on n'a pas encore abordé, mais qui, je sais, est quelque chose que tu aimes bien. Tu m'as parlé de Vogel et les inspirations créatrices.
Est-ce que tu peux me parler, nous expliquer qui est Vogel et ce sujet-là?
C'est l'homme qui a popularisé les travaux de Joseph Campbell. Mm-hmm. Donc Joseph Campbell, le mythologue. Mythologue très célèbre pour avoir trouvé une structure narrative commune dans les mythes les plus anciens de l'histoire de l'humanité, que ce soit les mythes africains, sud-américains, européens, etc. Et Vogel a réussi à transposer le travail de Campbell pour l'écriture de scénarios, l'écriture de films, et a beaucoup documenté et a beaucoup travaillé, notamment pour Disney, mais a beaucoup documenté comment ce mythe du héros peut propulser n'importe quel récit. Et dans son livre, qui s'appelle The Writer Journey, je sais pas quelle est la traduction française, je suppose que c'est le voyage de l'écrivain, ouais. Comme ça. Il te donne différents archétypes, il te donne la situation ordinaire de ton héros, l'allié, l'ennemi, enfin, il divise ça en 21 parties, je crois. Et moi, je me suis appuyé sur ce livre pour écrire, entreprendre et surtout être heureux, qui est un livre, comme mon premier bouquin, La méthode Live Mentor, qui est basé à moitié sur des conseils pratiques, des analyses, de la méthodologie qui ressemble à ce qui se peut se passer dans une session de mentorat. Mais ce livre repose aussi à moitié sur des récits fictifs, des personnages que j'invente et à qui je dois donner une matière pour que le lecteur ou la lectrice se voit dans ce récit, se retrouve. Et donc voilà, ça a été un allié incroyable, le Vogler. Mais juste pour finir là-dessus, Campbell, d'ailleurs, à la fin de sa vie, utilisait ce parcours du héros comme outil thérapeutique. Et il organisait des sessions avec son meilleur ami, qui lui était un thérapeute. Ils organisaient des sessions au nord de New York, dans une maison dans laquelle je me suis retrouvé par un concours de circonstances incroyable. Ils organisaient des sessions, ils faisaient venir 20-30 personnes, plus des chamans d'un peu partout dans le monde, pour travailler autour de cette notion. Où est-ce que tu en es dans ton voyage du héros personnel et quels sont les différents voyages du héros que tu vas pouvoir vivre tout au long de ta vie? Et donc, cette référence-là, c'est la base du jeu de société sur lequel je travaille avec un ami qui s'appelle Yann. On se pose la question en ce moment de comment un jeu de société peut permettre de lever certains blocages. Et une partie du jeu repose sur ce que je viens de raconter.
C'est marrant cette logique de se dire que finalement notre vie est une succession de petits voyages du héros. C'est ça. Tu vois, moi c'est un truc que je dis souvent aux membres du cercle des créateurs, qui est, on est tous là, on se soutient, on avance, on se serre les coudes. Mais ce qui est génial, c'est que si demain tout ce qu'on fait avec notre activité, qui est un truc important de notre vie en tant que créateur, s'arrêtait, ben on aurait toujours ça, ce qu'on a développé à côté, tu vois, les relations, les contacts, etc. Et en fait, il pourrait y avoir de multiples successions, oui, de ces petites aventures du héros qu'on a tous. On va continuer à s'éveiller, continuer à grandir, continuer à évoluer, mais ce qui compte, c'est aussi, voilà, dans quel cadre on le fait et comment il y a du bien-être derrière tout ça et comment on se sent bien et épanoui.
Ouais, je pense que c'est essentiel que tu dises ça, que tu vas passer ce message. Moi, c'est le message que je fais passer dans le sixième et dernier chapitre, basé sur le traumatisme de l'échec. Le chapitre porte sur le traumatisme de l'échec, à savoir la situation où j'ai arrêté mon entreprise et j'en souffre. Je souffre terriblement de cet échec. Je me sens nul. Et une solution, justement, est de se dire, mais ce n'était pas l'aventure de ma vie. C'était une des aventures de ma vie.
Tu es le... Alexandre, le premier épisode de cette saison du podcast. Et pour cette saison, il y a des thématiques qui sont de plus en plus importantes pour moi dans ma vie de créateur. Et donc, j'ai deux questions que j'aimerais te poser pour terminer l'épisode. La première, c'est quelque chose qui est relatif à l'éveil. Donc, comment on arrive à voir un peu plus autour de nous ce qui se passe. Sur quoi tu as le plus ouvert les yeux récemment? Sur quoi tu t'es senti le plus éveillé? Ou grâce à quoi ces derniers mois?
Il y a eu pas mal de thèmes pour moi en 2021. Mais si je devais en retenir trois, la création artistique, le quotidien des athlètes de haut niveau et les psychédéliques, oui, comme outil de guérison. Et je me suis passionné pour les recherches et les expérimentations qui sont faites autour des champignons comme outil pour lutter contre la dépression ou comme outil pour mieux se connaître. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a deux documentaires qui sont très intéressants à regarder, Fantastic Fungi et Magic Medicine, qui sont tous les deux sur Netflix et qui voilà, peuvent donner des très beaux éclairages sur ces sujets.
J'ai regardé Fantastic Fungi sur tes conseils et c'est très intéressant de voir à quel point ces sujets-là qui ont, j'ai l'impression, été bannis de la société pour des raisons assez lobbyistes, notamment aux US à la période hippie, etc. Tu te rends compte à quel point que c'est des pratiques qui sont ancrées déjà depuis la nuit des temps et à quel point elles ont des impacts thérapeutiques forts pour des cas de dépression, pour des cas de cancer et pour des cas de maladies graves, quoi.
Tout à fait. Et avec le bon dosage, ça peut aussi être des outils incroyable quand tu n'es pas en dépression mais que tu veux mieux te connaître. Et donc voilà, je pourrais, c'est les trois éléments d'éveil que je pourrais te transmettre.
Et une dernière question, c'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment vivant?
Beaucoup de moments.
La dernière qui te vient.
En 2021. Mais la dernière spécifiquement.
Ouais. Enfin une, ou en tout cas celle qui te revient en mémoire comme une fois où tu t'es senti particulièrement en vie.
Bah, on a fait notre séminaire d'entreprise avec Live Mentor en septembre.
À Aix.
À Aix, dans un contexte un peu particulier, parce que mon associé Anaïs a eu un problème de santé 2 jours avant le début du séminaire. Et or, Anaïs est un peu la reine de l'organisation, donc il y avait une grosse partie du séminaire qui reposait sur elle.
Elle va mieux ?
Elle va mieux, elle va très bien. Et j'ai trouvé ça incroyable, la manière dont toute l'équipe a réagi. Parce qu'on a réinventé le programme en cours de route. On n'a pas fait ce qu'on devait faire, mais on a fait autre chose et c'était très bien. On a fait des exercices de connaissance de soi, on a fait des exercices de dev perso. On a Anaïs qui a pu venir à un dîner, elle a eu une aide d'honneur. Il y avait, je crois, 80 personnes, si je ne dis pas de bêtises. On s'est retrouvés en boîte à 4h du matin avec 20 personnes. Et ça, bah ouais, en fait, je sais pas, ça, par exemple, toi, quand tu m'entends dire on s'est retrouvé en boîte, tu peux le voir sous la forme ah ouais, bah ils sont juste allés se bourrer la gueule. Bon, déjà, moi je bois pas une goutte d'alcool, donc ça c'est une chose à avoir en tête, mais moi c'est pourquoi je le mentionne là, parce que se retrouver avec des gens avec qui tu travailles tous les jours dans ce type d'expérience, où il n'y a pas de jugement, où tu ne te regardes pas, où tu es juste là pour t'amuser comme des enfants, c'est incroyable en fait.
Tu reviens à des choses juste essentielles de
bah voilà.
Parler de la vie, quoi, de se sentir exister. Quoi.
Et moi, j'y suis peut-être particulièrement sensible parce que pendant des années, j'étais vraiment un connard de patron. Tu vois, j'ai aucun problème à le dire. Déjà parce que bon, pendant longtemps, j'étais seul, donc j'étais le patron de personne à part moi-même et je n'étais pas un très bon patron de moi-même. Ouais. Mais aussi parce que je crois à l'époque où tu es arrivé, je pense que tu m'as connu comme ça.
Moi, j'étais connu le switch entre de l'un à l'autre.
Voilà, j'avais beaucoup de mal au début à rentrer en contact, à rentrer en relation avec les personnes de l'entreprise. Parce que j'étais obnubilé par le travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'avais pas le temps, quoi. J'avais pas le temps de la relation. J'étais... Faut bosser, quoi. Il y a des choses à faire. Et tu fais partie des personnes qui m'ont beaucoup fait changer. Valentin Decker, qui a maintenant sa propre entreprise qu'on salue, qui est une entreprise d'écriture qui s'appelle...
On t'aime, Valentin.
Sauce Writing, c'est son nom.
Moi, je t'ai vu évoluer en l'espace de 1 an, 2 ans.
Il m'a donné une ressource, en fait. Il m'a donné un article sur un rituel d'un coach américain de basketball avec ses équipes où il les invitait après les matchs, victoires ou défaites, à faire des beaux restaurants avec leur famille. Et la règle, je crois, c'était de ne pas parler du match. Enfin, en tout cas, c'était... Et quand j'ai lu cet article, ouais, je me suis dit, il y a
un truc intéressant.
Il y a un truc que j'avais pas compris. Donc voilà, ça c'est. Ouais, je me suis senti très vivant lors de ce séminaire. C'était un super souvenir.
Génial. Écoute Alex, merci. Franchement, c'était super cool de t'avoir sur le podcast. C'est marrant parce que je considère pas du tout que Inspiration Créative est un podcast d'entrepreneuriat.
Et en fait, je voulais vraiment t'inviter à ce moment-là parce que je sens qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment pour toi. Le livre en est une, mais aussi cette volonté, tu vois, d'être un peu toi le dirigeant créatif, avec la volonté de t'impliquer dans la marque, dans les contenus de Live Mentor, dans les vidéos YouTube. Et je trouve ça super intéressant de t'avoir à ce moment-là et pas il y a 2 ans où c'était encore autre chose. Mmh. Donc, un grand merci d'être venu et merci. Voilà, c'est tout.
Merci à toi.
Ciao, Alex.
Et le cadeau ?
Ah, c'est vrai, il y a un petit cadeau pour
toi.
Ah, il a raison, il a raison. Je m'engage tous mes devoirs. Voilà, un petit cadeau pour toi pour terminer. Alors, je te tiens le micro comme ça en parallèle.
L'autrice de Culotté, Esner Award 2019, livre ici son premier récit autobiographique où histoire d'enfance et adolescence compose le portrait de l'adulte qu'elle est devenue. Pénélope Bagieux, mais tu l'as mentionné tout à l'heure.
Mais bien sûr, Pénélope est quelqu'un de génial qui est venu dans le. Bah, c'était le dernier épisode avant toi. Et elle a sorti cette nouvelle BD qui s'appelle L'Estrate, que j'ai lu à Noël ou quelque chose comme ça. Et qui est très jolie déjà, très bien dessinée, mais surtout super intéressant de voir comment notre identité, puisqu'on a parlé d'identité, se construit aussi à travers différentes strates de vie. Et voilà, je pense que ça va beaucoup te plaire.
Oui, c'est ce que là je suis en train de feuilleter un petit peu. J'ai l'impression que ça parle d'enfance, d'adolescence.
Ouais.
Le premier amour, génial, merci beaucoup.
C'est pour changer des livres sérieux.
J'adore les
BD. Remarque, c'est très sérieux en fait.
Ouais.
Je dis ça, mais en fait, tu vois, je me suis dit BD, souvent, c'est associé à quelque chose de très plus relax. Mais en fait, tu vas voir, tu vas beaucoup aimer. Merci de me rappeler ce cadeau. Salut Alex.
Et je propose à quelqu'un, je vais te donner le cadeau. Non, je garde pour moi, il y en a qui... Ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Alex. J'espère qu'il vous a plu. C'était un vrai bonheur pour moi de l'enregistrer. C'est une personne que je connais bien et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller creuser ce sujet de la santé mentale des créateurs avec lui. Si ça vous a plu, comme d'habitude, je vous encourage à me laisser un 5 étoiles ou en tout cas une note de votre choix sur Apple Podcast ou sur Spotify, parce qu'on peut le faire maintenant sur Spotify. Et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode qui va, je suis sûr, beaucoup vous plaire. Bonne semaine à tous et bon courage dans tous vos projets de création.